Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Emma Lichtenstein, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Margot Page. À la technique ce matin, c'est Sébastien Royer. C'est le troisième volet de notre série sur les différents acteurs de la confrontation entre l'Iran et Israël. Hier, Mélanie Chalandon et ses invités ont évoqué le Hezbollah, l'un des plus fidèles alliés de l'Iran. Demain, nous parlerons de l'activisme des milices houthis au Yémen. Aujourd'hui, le soutien de l'Iran au Hamas, ici évoqué par l'ex-chef de la branche politique du mouvement, Khaled Meshal, en 2015 à Téhéran.
Peuple de Palestine, Israël a été battu dans sa tentative d'empêcher le lancement de missiles du Hamas. Merci à l'Iran pour son soutien populaire et officiel. Ensemble, nous avons compris comment coopérer dans la bataille pour la reconstruction, pour briser le siège.
Nous sommes fiers de la brave jeunesse palestinienne et des concepteurs de l'opération du 7 octobre. Des alliés du régime sioniste et certains membres de ce régime usurpateur répandent une rumeur selon laquelle la République islamique d'Iran était derrière cette opération. Ils se trompent.
Nous avons un bureau de représentation ici à Téhéran. Nous traitons avec tous les décideurs, toutes les organisations ici. L'Iran est un grand frère pour nous. Il a soutenu la question palestinienne bien avant la création du Hamas. Ils nous ont apporté leur soutien depuis le début.
Quel rôle l'Iran a-t-il joué dans l'attaque de la branche armée du Hamas en Israël le 7 octobre? Quelques jours après l'opération déluge d'Al-Aqsa, l'ayatollah Ali Khamenei exprimait son soutien au mouvement islamiste palestinien tout en réfutant la moindre implication de Téhéran ce jour-là. Si les différentes factions palestiniennes sont en contact étroit avec les forces Al-Quds, branche des gardiens de la révolution chargée des opérations extérieures de l'Iran, impossible de savoir pour l'heure si le Hamas les avait informés de leur intention de commettre ces attentats. Ce qui est sûr, c'est que le Hamas fait partie de ce que la République d'Iran considère comme son axe de la résistance, qu'elle finance et soutient militairement, et ce depuis les années 80, quand l'Organisation de Libération de la Palestine, qui avait jusque-là ses faveurs, a reconnu l'État israélien et commencé à négocier une solution à deux États. Depuis, les relations entre Téhéran et le Hamas sont fluctuantes. Les deux alliés se sont notamment brouillés pendant un temps au sujet de la guerre en Syrie, durant laquelle le Hamas s'est rangé du côté de l'opposition au régime syrien, quand Bachar al-Assad était soutenu pour sa part par la République islamique d'Iran. Comment expliquer cette convergence d'intérêts qui subsiste malgré tout entre le Hamas sunnite et l'Iran chiite? En dépit de leurs divergences théologiques, quels marqueurs idéologiques le Hamas et l'Iran partagent-ils? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Leïla Sera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris, le CAREP. Vous avez écrit « Le Hamas et le monde » paru en 2015, mais vous avez réactualisé en 2021 cet ouvrage paru aux éditions du CNRS. Nous sommes en studio avec Jean-Pierre Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, journaliste et écrivain. On peut vous lire principalement en ce moment dans Mediapart, où vous suivez en particulier et Gaza et l'Iran. Alors Jean-Pierre Perrin, ça fait bientôt 7 mois qu'ont eu lieu les attaques terroristes du Hamas en Israël. Est-ce qu'on a davantage de preuves aujourd'hui ou d'éléments qui permettraient de confirmer une implication directe de l'Iran, puisque telle est notamment la conviction des États-Unis, celle du conseiller adjoint de Joe Biden à la sécurité nationale, John Feiner?
Oui, une implication, mais est-elle directe ou pas? La question est là, en fait. Si on regarde bien les déclarations des dirigeants iraniens, à aucun moment ils ne cautionnent cette version. Alors, je ne dis pas qu'ils disent la vérité, forcément, évidemment, mais on perçoit même dans leurs déclarations un certain léger mécontentement par rapport à cette opération qui aurait été décidée sans leur consentement. Pour ma part, évidemment, je ne peux pas vous dire avec certitude ce qu'il en est. Je pense que s'il y avait un maximum de gens qui étaient au courant de l'opération, évidemment, elle aurait échoué. Or, on sait que le régime iranien est complètement infiltré par les services secrets israéliens. On le voit avec les nombreux savants qui ont été assassinés. On peut encore parler même de l'attentat, de la frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas, qui était d'une précision extraordinaire au moment même où ses principaux responsables militaires iraniens étaient en réunion. La frappe a ciblé à ce moment-là précis l'ambassade, alors que le consul iranien venait de sortir pour ne pas le tuer, lui. Vous voyez, on voit quand même qu'ils sont renseignés absolument sur tout. Je vais parvenir sur les nombreuses opérations qu'a mené Israël en territoire iranien grâce à des complicités évidentes au sein de l'appareil du régime. Donc, si jamais, le Hamas avait fait connaître son intention de frapper Israël, aux Iraniens, je crois que ça aurait fuité également et que les Israéliens, auraient été au courant à ce moment-là.
C'est vrai qu'on entend et lit tout et son contraire à ce sujet, Leïla Sera. En effet, on dit que si l'Iran avait été au courant, les services israéliens auraient au fait de l'apprendre et de mieux préparer une riposte avant d'empêcher de prévenir les attentats du 7 octobre. Mais d'un autre côté, il y a le Wall Street Journal qui, dès le 8 octobre, dès le lendemain, rapportant les propos de hauts responsables et du Hamas et du Hezbollah libanais, mais qui avait souhaité rester anonyme, parlait de réunions à Beyrouth depuis le mois d'août et surtout parlait d'une date, le 2 octobre, au cours de laquelle l'Iran aurait donné son aval au Hamas. Donc il y a une sorte de guerre de l'information à ce sujet. Qu'en pensez-vous ?
Oui, tout à fait. Le Wall Street Journal a dévoilé cette information dès le 8, comme vous venez de le rappeler, pour tout simplement faire croire que les Iraniens étaient derrière le Hamas, en fait, quand il a déclenché l'attaque, qui est pour moi un récit qui est partie intégrante de l'agenda politique de Netanyahou. Donc je serais extrêmement prudente sur ce type de source. Quand on sait d'ailleurs la collusion qui peut exister entre la presse et le monde politique, puisqu'on sait d'ailleurs le rôle qu'a joué le New York Times en 2003 dans la révélation de la prétendue présence d'armes de destruction massive en Irak, qui a donc permis l'invasion américaine en Irak. Donc je crois que c'est fondamental de déconstruire en fait l'idée de ce lien mécanique entre l'Iran et le Hamas, puisque la République islamique peut être un allié stratégique du Hamas, personne ne conteste ça, mais ce partenariat n'implique en rien une coordination sur le plan décisionnel. Le Hamas ne répond pas à l'Iran, et d'ailleurs l'épisode de la guerre civile en Syrie, comme vous l'avez dit, le confirme, puisque le Hamas a refusé de céder tout simplement aux pressions iraniennes qui demandaient de soutenir officiellement Bachar al-Assad. Et je dirais, le Hamas n'a pas besoin non plus de l'Iran pour ni penser une attaque, ni la mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs l'une des leçons du 7 octobre et des 7 mois de guerre qui viennent de s'écouler, puisque le Hamas a montré qu'il était capable de mettre en déroute l'armée israélienne sans besoin de technologie avancée, puisque les membres des brigades Al-Qassam se battent essentiellement avec des roquettes de faible coût et des roquettes de fabrication locale. Donc, question que évidemment vous posez, c'est est-ce que les Iraniens étaient au courant ? Alors ça, on peut pas y répondre évidemment, mais je pense que on peut aussi se demander si Israël était au courant, parce que vous disiez tout à l'heure les Iraniens, si l'Iran avait été au courant, les Israéliens auraient été au courant, mais en fait il y a un certain nombre de sources de journalistes d'investigation en Israël qui disent au contraire que c'est le Mossad, les services de sécurité en Israël, qui étaient au courant qu'une attaque d'envergure allait toucher le pays, mais qui n'ont pas pris les mesures pour limiter son impact ni l'arrêter.
Si, encore une fois, on n'a pas d'éléments concrets qui prouveraient de manière formelle, Jean-Pierre Perrin, l'implication de l'Iran précisément dans ces attaques du 7 octobre, on sait que des liens existent depuis très longtemps. Une chambre des opérations conjointes, par exemple, à laquelle vous avez consacré un article dans Mediapart. Qu'est-ce que c'est que cette chambre des opérations conjointes ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de coordination néanmoins sur des opérations militaires comme celle du 7 octobre, on ne sait pas, mais en tout cas en général.
Un petit point quand même sur le 7 octobre, c'est qu'à la réunion que mentionne le Wall Street Journal, il est fait état de la présence du ministre iranien des Affaires étrangères. Et là, ça va pas. Ça va pas parce que ce ministre, évidemment, a des compétences diplomatiques, mais il n'est en rien, il n'a jamais été, et aucun ministre des Affaires étrangères n'a jamais été impliqué dans des décisions militaires en Iran. Non, la chose militaire appartient aux gardiens de la Révolution, c'est tout. et à l'appareil sécuritaire, mais certainement pas, on ne voit pas pourquoi un ministre des Affaires étrangères aurait été présent, ce qui en plus évoque la possibilité de multiples fuites à ce moment-là. Donc non, je crois que ça, il va pas dans le décor, si vous voulez. Pour en revenir à la chambre de coordination, écoutez, c'est une déclaration du responsable adjoint des opérations militaires de la force Al-Quds, donc la force extérieure et de renseignement des gardiens de la Révolution, Abbas Nil Fourach. J'ai un problème avec son nom. Bref, donc de cet officier supérieur qui en a fait état et qui l'a mentionné, il quasiment sous ce vocable-là. Et puis enfin, c'est pas vraiment une surprise qu'il y ait une centralité, si vous voulez, des renseignements et des opérations. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui participent à cette cellule d'organisation, de coordination, n'aient pas leur propre autonomie. Ils ont chacun leur propre autonomie, mais en même temps, il y a une autorité centrale, et tout se joue entre l'autonomie et la décision, les décisions centralisées. Donc, c'est un jeu au coup par coup, je pense. Mais le guide suprême lui-même, il a fait d'une certaine référence dans une déclaration en juin 2023, en disant qu'il y avait une coordination, mais qu'il y avait effectivement une certaine autonomie de la part des différents intervenants.
Alors, le Hamas aurait-il pu, en revanche, mener cette attaque sans l'Iran, sans un soutien logistique et financier de beaucoup plus long terme? Leïla Sera, quand a commencé ce soutien en argent et en armes? Quand le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans égyptiens, est fondé en décembre 1987, au déclenchement de la première intifada, quels sont, à ce moment-là, les liens entre l'Iran et les différentes factions palestiniennes?
Oui, tout à fait. Le soutien de l'Iran au Hamas remonte donc à ces années-là, qui sont donc le début des années 90, qui est une période très importante en Palestine, puisqu'elle fait suite à l'éclatement de la première intifada, à la création du Hamas, comme vous venez de le rappeler, et à l'ouverture des négociations entre l'OLP et le Hamas, l'OLP et Israël. Excusez-moi, tout ça sur fond de fin de guerre froide et effondrement de l'Union soviétique. Donc c'est une période décisive. Mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que le soutien iranien, qui va commencer à cette période en direction du Hamas, n'est pas du tout fondé sur une idéologie religieuse. D'abord parce que avant de soutenir l'Iran, vous l'avez dit, avant de soutenir le Hamas, vous l'avez dit, l'Iran soutenait Yasser Arafat. Donc ce n'est qu'après les démarches de l'OLP engagé à Madrid et à Oslo, que l'Iran va changer finalement de partenaire stratégique en Palestine pour se tourner vers le Hamas, qui était résolument opposé au processus d'Oslo. Et l'autre élément qui suggère qu'il n'y a pas d'alliance de type idéologique, c'est la présence tout simplement d'un autre acteur en Palestine qui, lui, est pour le coup très proche de l'Iran, c'est le djihad islamique. Alors le djihad islamique a été créé à la fin des années 70, par des militants qui étaient proches du cheikh Yassine, mais qui, justement, avec le déclenchement de la révolution islamique en Iran, en 1979, vont se détacher, en fait, des frères musulmans palestiniens, qui étaient beaucoup trop attentistes à leur goût, vis-à-vis du combat nationaliste contre Israël, et vont créer cette nouvelle organisation, donc le djihad islamique, pour prendre part, justement, activement à la lutte armée contre Israël. Donc le djihad islamique est certes sunnite, comme le Hamas, mais son idéologie religieuse, pour le coup, est beaucoup plus compatible avec la République islamique, puisqu'elle est hybride, l'idéologie du djihad islamique. Elle est partagée entre, d'un côté, des idées marxistes et maoïstes qui étaient très en vogue à l'époque, dans les années 70, et les idées de la révolution iranienne, qui sont celles de la théologie islamique de la révolution, qui vont chercher à contester l'ordre établi sur une base islamique, c'est-à-dire avec un langage qui est endogène aux sociétés de la région.
Donc, oui, Jean-Pierre Perrin, jusqu'où faut-il s'étonner de cette proximité entre le Hamas et l'Iran? Donc le Hamas sunnite, l'Iran chiite. Par ailleurs, le Hamas provient des frères musulmans. On sait qu'en Iran, les frères musulmans et le régime partagent quand même des valeurs communes. L'ayatollah Ali Khamenei a été le traducteur, par exemple, en persan, d'ouvrages d'un intellectuel frériste exécuté dans les années 60 dans les prisons égyptiennes. Donc jusqu'où faut-il aller dans cet étonnement qu'on a de voir un pays chiite et une organisation sunnite s'unir au nom d'un ennemi commun qui serait Israël.
Ah oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, tout simplement aussi. Le régime iranien comme le Hamas sont des régimes très idéologiques, même si ça n'exclut pas un certain pragmatisme parfois. Et s'ils sont très idéologiques, ils font reposer leur idéologie notamment sur l'histoire sainte musulmane, chiite pour les uns, sunnite pour les autres. Et si on regarde précisément cette histoire sainte, on voit par exemple le personnage d'Omar, qui est le deuxième calife, donc le deuxième successeur de Mahomet. Et cet Omar, il est absolument haï en Iran. Il y a même une mosquée, je crois qu'elle est à Téhéran, une mosquée qui porte le nom de l'assassin d'Omar. Parce que on sait que c'est supposé être un Perse qui a assassiné Omar. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les historiens disent que ce n'est plus si vrai que cela. Mais il y a une mosquée qui porte son nom. On pouvait entendre encore jusqu'à une époque récente des prêches dans les mosquées iraniennes et même aussi, voire au Liban, des prêches ou des sermons extrêmement virulents contre la personnalité d'Omar. Or, Omar, pour tous les mouvements islamistes radicaux, c'est quand même le calife préféré après Mahomet. C'est d'abord c'est le calife le plus très conquérant, très sanglant également. Et on se souvient quand même, on lui reproche notamment les Perses, les Iraniens, les chiites en général lui reprochent notamment d'avoir violé la petite fille de Ali, le premier imam du chiisme, et d'avoir aussi molesté Fatima, la fille du prophète. Donc, il y a un contentieux religieux qui est énorme.
Mais toujours présent.
Ah oui, oui, parce que ça fait partie de l'histoire sainte, et cette histoire sainte, elle revient sans arrêt, du moins à Téhéran, dans les cérémonies de commémoration, et ça revient sans cesse. Oui, ça. Alors, donc, du point de vue de l'histoire sainte, donc, il y a des grosses bagarres, si vous voulez. En revanche, ils ont tous un ennemi commun, qui est Israël, ils ont tous un autre ennemi commun, qui sont les États-Unis et globalement les pays occidentaux. Donc, ce sont des alliances opportunistes, en fait, où ce qui rassemble les uns et les autres, c'est un ennemi commun, Israël, les États-Unis, le monde occidental.
Et donc, c'est au nom de cette unité des fronts, pour reprendre leurs mots, que l'Iran chiite et le Hamas sunnite ont fait taire ces divergences idéologiques, comme l'explique ici l'ayatollah Khamenei devant un parterre d'universitaires sunnites et chiites, il y a quelques années.
Un virus se propage dans la population iranienne. Des gens estimés, des intellectuels m'ont demandé « Mais pourquoi soutenez-vous le peuple de Gaza ?» Je leur réponds que se voir les uns les autres comme des traîtres empêche toute coopération, et c'est ce que cherche l'ennemi. Bien sûr, il y a deux écoles de pensée, nous avons des principes différents, mais par bien des manières, nous sommes unis.
Nous sommes unis au nom aussi de la défense d'une cause palestinienne, c'est ce qu'on entend dans ce discours de l'ayatollah Khamenei. Quelle place prend la cause palestinienne aujourd'hui et depuis, si on fait remonter ça dans un contexte historique, Jean-Pierre Perrin, quelle place prend la cause palestinienne dans cette politique iranienne?
Alors un point aussi, c'est que Khomeini, après avoir pris le pouvoir, un petit peu à la surprise générale, se proclame comme le champion non pas seulement des chiites, mais de l'ensemble du monde musulman, ce qui donc forcément va fâcher les partis radicaux sunnites qui disent mais de quoi se mêle-t-il? Surtout que, pour un point essentiel aussi pour les mouvements sunnites les plus radicaux, le chiisme est vraiment une hérésie, c'est-à-dire il est assimilé carrément au judaïsme. Donc ce sont quand même des fossés qui sont très larges. Et dans ce jeu-là, la cause palestinienne va être effectivement un élément rassembleur. Les mouvements palestiniens voyant Khomeini se proclamer comme le héros de la cause palestinienne, eh bien évidemment, vont tenter d'une part la surenchère, mais aussi de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc il y a ces deux éléments qui jouent, la surenchère d'un côté, et aussi le fait de pouvoir mener des opérations communes, qu'elles soient diplomatiques ou militaires, peu importe. Mais il y a quand même ce partage d'un combat commun à mener, même si c'est les Iraniens, même si même la Constitution y fait référence. Je crois quand même que la cause palestinienne est vraiment une cause opportuniste quand même. On veut en découdre avec Israël parce que, mais on ne s'intéresse pas plus que ça quand même au mouvement palestinien.
Alors, l'Iran soutient la cause palestinienne depuis longtemps, officiellement, et avant de soutenir le Hamas, c'est l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine et de Yasser Arafat que l'Iran soutient. En 79, par exemple, dans les ruines de l'ambassade israélienne, est ouverte l'ambassade de Palestine à Téhéran par Yasser Arafat. C'est une archive du 19 février 1979, Leïla Sera. On entend le peuple iranien crier « Roménie Arafat », si j'entends bien. Il faut tendre l'oreille pour écouter cette archive. Est-ce que l'Iran va commencer à soutenir le Hamas contre l'OLP ou en plus de l'OLP ? Vous nous disiez tout à l'heure que c'est dans le contexte du rapprochement de l'OLP avec Israël que l'Iran va commencer à mettre ses billes, entre guillemets, vers le Hamas. Mais est-ce que pour autant, il laisse complètement tomber l'OLP d'Yasser Arafat ?
Et bah c'est un vrai changement de partenaire en Palestine qui est vraiment lié à cette bifurcation de Yasser Arafat en direction d'Israël, qui remonte d'ailleurs au milieu des années 70, mais qui va être progressive et qui va se concrétiser avec Madrid et Oslo, et qui va être un point de non-retour pour les Iraniens qui sont vraiment dans une perspective de condamnation de ce processus et qui vont du coup miser sur le Hamas, donc qui soutiennent le djihad islamique, mais qui soutiennent également le Hamas, et qui soutiennent le Hamas tout simplement parce que le Hamas va monter en puissance au cours des années 90 et devenir l'acteur qui mobilise le plus les masses palestiniennes. Et c'est ça qui compte pour l'Iran. Mais je serais un petit peu mitigée sur ces considérations d'opportunisme politique et d'instrumentalisation que l'Iran et les autres acteurs, surtout chiites aujourd'hui, ont vis-à-vis de la question palestinienne et dans la défense qui s'exprime à l'égard de Gaza aujourd'hui, puisque en fait les choses pour moi sont un peu plus compliquées. Hein. Le soutien au Hamas permet à l'Iran, certes, de pallier à son manque de légitimité en interne, on a beaucoup entendu ça, de concrétiser ses ambitions régionales. Pour les autres acteurs, la lutte contre Israël, la lutte armée permet aussi de fédérer en interne, d'obtenir un prestige local vis-à-vis de leurs gouvernements centraux. Mais je crois que pour tous ces groupes aussi, l'opposition à Israël, elle relève quand même d'une chose qui est assez proche de ce que eux-mêmes connaissent dans leur propre pays, hein, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme occidental et américain qui n'est pas une vue d'esprit, en fait, qui n'est pas une image, hein, mais qui est quand même quelque chose de très concret. On voit bien comment, en Irak, par exemple, aujourd'hui, les milices chiites se saisissent de ce moment pour chasser les troupes américaines du pays. Donc, pour moi, la notion d'instrumentalisation, elle est un petit peu problématique parce qu'elle évacue complètement l'importance, en fait, de ces expériences vécues, partagées, des perceptions, des représentations, en fait, de ces acteurs qui comptent, hein, dans la conduite de l'action politique.
Donc il y a bien sûr une question de perception, il y a aussi très prosaïquement l'aide militaire, financière qu'apporte l'Iran au Hamas dès le début, dès la création du mouvement. Alors on parle de 30 millions de dollars par an dans les premières années, une formation militaire aussi, je ne sais pas dans quelle mesure on peut confirmer ces chiffres, Jean-Pierre Perrin. En tout cas, est-ce que c'est l'Iran qui forme au départ les combattants du Hamas aux attentats suicides ? Est-ce qu'on peut dire que l'Iran, avec son culte du martyr, a formé aux attentats suicides et propagé ce mode opératoire, puisque le premier attentat suicide du Hamas a lieu au printemps 94 dans la ville israélienne d'Afoula. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont l'Iran a formé les combattants du Hamas ?
Non, alors je ne suis pas sûr que l'Iran ait formé les combattants suicides du Hamas.
C'est un mode opératoire qui existait déjà de toute façon au Japon,
oui, mais
entre autres.
L'Iran a très vite renoncé, le Hezbollah a très vite renoncé à ces attentats suicides. Il y en a eu effectivement. Non, un point, effectivement, la cause palestinienne, pour l'Iran, c'est le prolongement d'une cause plus largement anti-impérialiste, anti-américaine. Israël est vu comme le prolongement des intérêts américains au Moyen-Orient, et donc ça légitime effectivement le combat contre Israël, et même la destruction de l'État israélien qui est considéré plus ou moins comme une enclave américaine. Et puis évidemment, s'ajoute la question de Jérusalem. Alors Jérusalem est quand même aussi centrale. On revient à la problématique religieuse, la troisième ville sainte de l'islam. Donc il n'est pas question de la laisser entre les mains des entre guillemets, sioniste.
Mais voilà, pour les raisons et pour les enjeux invoqués par l'Iran et cet axe de la résistance, comme il dit, mais sur les moyens donnés. Qu'est-ce qu'on sait pour sûr des moyens que l'Iran fournit au Hamas depuis plusieurs années? Alors, on parle de 30 millions de dollars par an à la création du Hamas. On a aussi voilà, une estimation de la contribution annuelle de l'Iran au budget du Hamas, 100 millions de dollars pour un budget total de 500 millions. D'où viennent ces estimations?
Alors, les 100 millions de dollars, c'est un chiffre qui a été annoncé par les services secrets israéliens. Alors, il peut être vrai ou pas. Hein, ça, personne ne peut vraiment le dire, mais je pense que la source, c'est le Mossad qui l'a lui-même fait savoir. Il y a eu un entraînement, en particulier des brigades d'élite du Hamas au sein de l'Iran. En fait, ça, je pense que c'est assez pas vraiment étayé, mais je pense qu'il y a des suspicions assez fortes. Il y a sans doute de l'armement, mais effectivement, la plupart des missiles qui frappent Israël sont de confection, de fabrication locale, et qu'à aucun moment le Hamas a disposé des capacités en missiles dont dispose actuellement le Hezbollah. Je rappelle, environ entre 100 et 150 000 missiles et roquettes.
Donc quand en 2008, le Hamas envoie 1665 roquettes sur le territoire israélien, d'après vous, ces roquettes n'ont pas été fournies par l'Iran?
Alors, c'est difficile de savoir quelle est la part fournie par l'Iran. On peut simplement noter qu'il y a quand même un blocus très fort des côtes de Gaza, qu'il y a quand même la marine israélienne qui est très opérationnelle, donc ça ne doit pas être très facile de pouvoir livrer de l'armement à Gaza. Ça, c'est alors, via l'Égypte, via le Sinaï, évidemment, beaucoup de choses passent. Via les tunnels qui sont établis, creusés entre Gaza et l'Égypte aussi, beaucoup de choses passent.
Mais... Avec l'aide de l'Iran, d'ailleurs, ces tunnels ou pas? Est-ce qu'ils ont été creusés? Est-ce qu'ils ont bénéficié d'un soutien logistique pour ces tunnels?
Je crois que les Gazaouis sont suffisamment capables, avec une technologie locale, de creuser ces tunnels. Bon, tout journaliste va voir les tunnels, hein, à une époque en particulier. C'est très facile de les voir. Ils sont innombrables, de taille et de format totalement différents. Donc non, je crois que les Gazaouis sont parfaitement en capacité de creuser ces tunnels. Et je ne vois pas forcément tous les missiles passés par là. Non, je crois qu'une bonne part des missiles envoyés par Gaza, par le Hamas et le djihad islamique sur Israël sont de fabrication locale.
Leïla Sera, est-ce qu'au sein du Hamas peuvent s'exprimer des divergences sur la juste distance à imposer à l'Iran? Que ce soit entre les cadres du Hamas, du bureau politique qui sont en exil, et la direction sur place à Gaza, est-ce que vous avez entendu s'exprimer des réserves sur ce lien que le Hamas entretient avec l'Iran?
Ah bah les réserves, elles sont pas récentes, hein, dès les années 90, quand a démarré ce partenariat stratégique entre l'Iran et le Hamas, des voix au sein du Hamas étaient évidemment contre. On a pu essayer de trouver plutôt un allié sunnite, des voix de contestation qui ont dit pourquoi on a un allié chiite, je veux dire c'est une alliance contre nature. Ça a pu exister aussi au milieu des années 2000, quand il y a eu plus une forme de contestation contre le pouvoir du Hamas à Gaza, qui s'est exprimé par des mouvements sunnites de type salafiste qui ont aussi saisi l'occasion de contester le pouvoir du Hamas à Gaza sur la base de cette alliance contre nature avec l'Iran. Donc ça a existé, mais je crois que ces querelles doctrinales, en fait, elles comptent assez peu dans le jeu politique. Elles peuvent compter pour décrédibiliser le Hamas avant tout, donc elles peuvent être utilisées, mobilisées par des opposants pour contester le pouvoir du Hamas, mais ça a pu exister évidemment au milieu des années 2000, les choses ont quand même changé aujourd'hui. Il faut prendre toujours voir le contexte local palestinien à la lumière des évolutions régionales et mondiales. Pour revenir sur le soutien iranien, je pense que la période décisive, puisque vous parliez du soutien financier et militaire, la période décisive, c'est 2006. Parce que en 2006, que se passe-t-il? Le Hamas gagne les élections législatives en Palestine. Et donc le Hamas forme le gouvernement de l'autorité palestinienne, sauf que les fonds octroyés à ce gouvernement, donc l'aide internationale, ne circulent plus, puisque comme vous le savez, le Hamas a été boycotté. Et donc le Hamas doit pallier à ce manque de soutien matériel, et donc va chercher un bailleur de substitution, et va trouver dans l'Iran le seul pays qui accepte en fait de soutenir financièrement ce gouvernement, c'est l'Iran. Et donc sans l'Iran, le gouvernement finalement le 10e gouvernement palestinien, hein, qui était le seul gouvernement de l'autorité palestinienne à l'époque, ne peut pas fonctionner sans l'aide iranienne. Donc ça, c'est très important. Et je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que finalement, c'est l'inconsistance de l'Europe qui avait appelé à des élections démocratiques en Palestine et qui finalement, après le résultat des urnes, s'est rétractée et donc a donné toute son aide à la présidence et non plus au gouvernement de l'autorité palestinienne, qui a poussé en fait le Hamas vers l'Iran. Donc a rendu ce soutien financier iranien primordial, quitte même à faciliter, donc, comme vous le disiez, d'autres types de soutien, notamment militaire, effectivement.
De l'argent du Qatar aussi, on en parlera plus particulièrement dans le focus à la fin de l'émission. Peut-être un mot aussi sur cette direction politique en exil du Hamas, donc qui a été exilé d'abord à Amman en Jordanie, puis à Damas en Syrie, et enfin depuis 2012 à Doha au Qatar. Pourquoi pas en Iran ? C'est-à-dire, si on parle de ces liens, si le Hamas et l'Iran sont si proches, pourquoi aucun cadre du Hamas n'a choisi de s'installer en Iran ?
Alors, d'abord, le Qatar va prendre le relais justement de ce soutien financier. Parce que ce soutien financier, à partir de 2014, le Hamas déclare qu'il n'est plus officiellement en charge d'un gouvernement. Même s'il y a toujours évidemment des fonctionnaires hein, qui sont liés au Hamas. Mais c'est le Qatar qui va prendre le relais de ce soutien financier directement aux fonctionnaires de Gaza. Et encore une fois... Ce qui est important, je pense, de noter quand on parle du soutien financier au Hamas, c'est de voir comment ce sont ces acteurs extérieurs qui sont toujours appelés. Et pourquoi ce sont ces acteurs extérieurs qui sont appelés ? Parce qu'Israël ne veut pas que ce soit l'autorité palestinienne de Ramallah qui finance ce gouvernement. Et donc, on fait appel à l'Iran ou au Qatar. Israël fait appel au Qatar hein, de manière officieuse pour que le Qatar paye, effectivement. Et donc, pourquoi le Qatar ? Parce que le Qatar permet aussi aux Israéliens de diaboliser ce gouvernement à Gaza ou le pouvoir du Hamas à Gaza, de le décrédibiliser en disant il est soutenu par le Qatar qui est lié aux frères musulmans, etc. Donc, ça permet encore une fois de diaboliser... Ce gouvernement du Hamas qui n'en est pas un, mais qui en est un de facto, puisque on doit bien gérer la vie quotidienne des Gazaouis.
Là, vous parlez avant le 7 octobre et les attentats du Hamas du 7 octobre. Mais pardon, juste parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette première partie et qu'on n'a pas encore évoqué le tournant de la guerre en Syrie, cette relation en dents de scie entre l'Iran et le Hamas connaît une sorte de tournant avec la guerre en Syrie, puisque quand la guerre civile éclate en 2011, les dirigeants du Hamas, basé à Damas, prennent tout de suite, me semble-t-il, parti pour l'opposition à Bachar al-Assad, alors qu'ils savent que ça ne va pas plaire à leur principal financeur, l'Iran. Est-ce qu'on sait à ce moment-là, Jean-Pierre Perrin, quelle est la nature des discussions qui ont lieu entre le Hamas et l'Iran ?
Oui, alors c'est difficile de savoir exactement la nature, mais pour le Hamas, c'était quand même la moindre des choses que de soutenir l'opposition. Enfin, le régime de Bachar al-Assad est connu pour sa persécution féroce de tout ce qui est frère musulman. Hein. Je rappelais quand même simplement en 1982 le massacre de la ville de Hama après un soulèvement des frères musulmans qui a fait 20 000 morts. Donc ça ne s'oublie pas. Pendant la guerre civile syrienne, il y aura l'encerclement de l'immense camp palestinien de Yarmouk où on va laisser la population mourir littéralement de faim. Et ce sont des choses quand même que le Hamas, qui est aussi une des branches des frères musulmans, ne peut pas oublier.
Donc c'est alors tout à que fait... l'Iran ne réagit pas. Quand Bachar al-Assad tire sur ce camp de réfugiés palestiniens, l'Iran ne dit rien.
Non seulement tire, mais affame, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Non, l'Iran ne dit rien. L'Iran est engagé dans un soutien déterminé envers le régime de Bachar al-Assad. Donc, non seulement l'Iran ne dit rien, mais le Hezbollah va se battre parfois contre le Hamas. Alors, sans doute que le soutien du Hamas à la cause syrienne a été plus ou moins symbolique. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment beaucoup de combattants du Hamas qui se soient battus en Syrie, hein, au contraire. De toute façon, il y a le passage par le Liban qui l'empêcherait, ou par la Jordanie. Mais en tout cas, donc, le conflit est là et sera... Finalement, il trouvera sa solution qu'avec la fin de la guerre civile en Syrie, enfin elle n'est pas tout à fait terminée, mais en grande partie. À ce moment-là, donc, on pourra sera évoquer les possibilités de rétablir des liens forts entre le Hamas et Téhéran.
L'Iran avait, pendant un temps, pendant la guerre en Syrie, réduit l'aide financière qu'il versait régulièrement au Hamas de moitié, dit-on, Leïla Sera, de 150 millions de dollars par an à moins de 75 millions, alors sans couper totalement les vivres, mais en réduisant donc de moitié cette aide. Finalement, les deux alliés d'hier le sont de nouveau. Est-ce que l'Iran est aujourd'hui le seul allié du Hamas parmi les pays musulmans, Leïla Sera ?
Non, le Hamas a beaucoup d'alliés. Hein. L'Iran est loin d'être le seul allié. C'est vrai que la période de la crise syrienne a refroidi les relations, que l'Iran a stoppé pour un temps son soutien. Mais je dois dire que l'une des leçons en fait de cette crise, c'est justement de montrer que finalement c'est l'Iran qui a davantage besoin du Hamas que l'inverse. Ça, c'est une première chose, parce qu'en fait, les relations se sont rétablies assez vite, ce qui prouve que les Iraniens ont vraiment besoin du Hamas. Et pas que les Iraniens, d'ailleurs, d'autres pays ont besoin de soutenir le Hamas. Donc, on voit souvent les choses à travers un certain prisme, comme si le Hamas avait besoin de tous ses acteurs pour survivre, alors que l'inverse est plutôt vrai. Je pense que l'autre leçon aussi de cette période, c'est qu'elle a montré tout simplement, comme vous le disiez, que les Iraniens, que le Hamas n'était pas du tout un féodé à l'Iran et que tout simplement voir l'Iran derrière les actions du Hamas, c'est tout à fait impossible. Et enfin, ce qui est aussi important, et vous en parliez tout à l'heure, par rapport à cette période et ce refroidissement des relations avec l'Iran, c'est qu'en effet, ça a, on va dire, renforcé le leadership à Gaza par rapport au leadership de l'extérieur qui s'est alors installé à Doha, mais qui s'est affaibli parce qu'il a perdu Damas et qu'il s'est dispersé géographiquement. Donc, il s'est affaibli pendant cette crise syrienne. Et donc, on a des on va dire, un leadership de Gaza qui a pris le pouvoir sur la décision au sein du Hamas par rapport aux années 90 et 2000, lorsque le leadership de l'extérieur était encore décisionnaire, qui décidait tout simplement de la guerre et de la paix. Hein. Et ça s'est quand même inversé, notamment dû à cette crise syrienne et au refroidissement des relations entre Khaled Meshaal, qui était à l'époque...
à la tête du bureau politique.
Tout à fait, à la tête du bureau politique, qui est donc l'organe, l'instance exécutive du Hamas, mais qui est dispersée à travers différents leaderships, oui. Donc à Gaza, en Cisjordanie, à l'extérieur, parce qu'on a souvent tendance à croire que le bureau politique, c'est l'extérieur, mais non, le bureau politique, c'est l'instance exécutive du Hamas qui dispose d'une vingtaine de membres qui sont répartis sur différentes localités géographiques.
Oui, pour conclure, pardon, cette première partie, Jean-Pierre Perrin, si l'Iran dit aujourd'hui défendre les Palestiniens et la cause palestinienne, est-ce que l'attaque de drones qu'il a lancée contre Israël, cette opération baptisée Promesse Honnête du 13 avril, est-ce qu'elle a eu un effet sur le terrain dans la manière dont l'armée israélienne intervient à Gaza? Est-ce que l'Iran peut dire qu'elle a fait en sorte que le peuple palestinien soit aujourd'hui moins visé?
Alors, il faut reconnaître un point que les Iraniens eux-mêmes reconnaissent, que le régime iranien lui-même reconnaît, c'est la centralité de Gaza. Hein, c'est incroyable que cette petite enclave, grande comme le territoire de Belfort, ait une telle centralité pour les différents acteurs, dont Téhéran. Donc ça, c'est le premier point. Quant à l'attaque de drones de Téhéran contre Israël, elle est plus une réaction contre l'attaque qui avait eu lieu de son propre consulat à Damas. Hein. Je pense que dans cette attaque, la cause palestinienne passe au second plan. Il s'agit de montrer, d'une part, à la population iranienne que le régime est fort, qu'il est capable de répliquer, ensuite de montrer à tous les alliés et les proxys et les alliés de l'Iran que Téhéran est capable de répliquer à Israël. Et puis, il y a un message aussi très fort à l'égard de tout le Moyen-Orient, de montrer que l'Iran n'est pas un pays qui se laisse faire et que désormais, elle entre dans un nouveau cycle. On passe de la guerre de l'ombre à la guerre ouverte, quitte à revenir peut-être maintenant à la guerre de l'ombre. امروز عکس تو رو توی روزنامه دیدم صد روز هزار روز یه عمره که تو زندانی دست تو بستن
بالا تو شکستم، دیواری کشیدن میونه تو روزای روشن، پرنده ها رو میزنن با تیر و کمون.
Mahtab de la chanteuse iranienne Marjane Farsad, paru en 2020. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur les enjeux de la confrontation désormais directe entre l'Iran et Israël et les luttes d'influence que se livrent ces deux puissances régionales en mobilisant de nombreux acteurs. Aujourd'hui, le Hamas avec nos invités Leïla Sera et Jean-Pierre Perrin qui ont apporté beaucoup de nuances à cette relation entre le Hamas et l'Iran. Le Hamas qui a également trouvé un soutien dans le monde sunnite, le Qatar. Celui-ci a voulu être médiateur dans le conflit avec Israël, mais il est en train de se départir de ce rôle.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Malheureusement, nous avons vu qu'il y a eu un abus de cette médiation et un abus de cette médiation en faveur d'intérêts politiques étroits. Cela signifie que le Qatar a appelé à une évaluation globale de ce rôle. Nous sommes maintenant à ce stade d'évaluer la médiation et également d'évaluer la manière dont les parties s'engagent dans cette médiation. Nous y sommes engagés d'un point de vue humanitaire, mais il y a aussi des limites à ce rôle et des limites à la capacité avec laquelle nous pouvons contribuer à ces négociations de manière constructive. Le Qatar prendra la bonne décision au moment opportun, au bon moment.
Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, le Premier ministre du Qatar, annonçait le 18 avril dernier être contraint de réévaluer sa médiation, selon ses mots, revoir son rôle de facilitateur des échanges entre Israël et le Hamas, notamment sur la question des otages et des échanges de prisonniers, parce que ces tentatives sont restées vaines pour la plupart. Bonjour David Rigolet-Rose.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Si le Qatar, pour l'instant, n'a pas réussi à obtenir un accord sur la libération d'otages israéliens du Hamas en échange de celle de prisonniers palestiniens par Israël, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il avait promis ou ce qu'il s'était promis à lui-même, à qui est-ce qu'il en impute aujourd'hui la faute ? Au mouvement islamiste ou à l'État hébreu ? Comment se positionne-t-il ?
Oui, alors dans la déclaration que vous évoquez, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a stigmatisé, l'utilisation à mauvais escient de sa médiation pour des intérêts politiques étriqués, sans mentionner les acteurs concernés. Mais effectivement, le Qatar prend acte d'une forme de défiance à son endroit, même si sa médiation n'a pas été totalement un échec, puisque à la fin de l'année dernière, ça a quand même conduit à la libération d'une centaine d'otages. Mais aujourd'hui, il prend acte effectivement d'une forme d'impasse, puisqu'il d'ailleurs il dit qu'il y a une atteinte au rôle du Qatar, et il est obligé de reconnaître quand même que effectivement aujourd'hui il y a des difficultés manifestement dans la négociation. Alors la question est de savoir s'il veut ne pas être comptable d'un échec, ou si c'est un effet de communication plus général. Mais il est clair qu'il y a un tournant qui est évoqué.
Le Qatar qui avait annoncé arrêter de financer le Hamas dès le 7 octobre, est-ce qu'on sait si en effet les valises de billets ne circulent plus entre Doha et la bande de Gaza, puisque beaucoup, notamment le journaliste Charles Anderlin, raconte très souvent ces valises de billets transportées par un émissaire qatari arrivant à l'aéroport Ben Gurion en jet privé, lequel émissaire est ensuite invariablement transporté par un convoi de la police israélienne jusqu'à l'entrée de Gaza où les valises étaient remises au Hamas. Et Benjamin Netanyahou lui-même en 2019 avait dit aux députés du Likoud qu'il fallait soutenir les transfert de fonds au Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Est-ce qu'on sait si cet argent ne circule vraiment plus du tout entre le Qatar et le Hamas depuis le 7 octobre ?
Ah oui, non, ça c'est terminé. Les seules aides financières, c'est à caractère humanitaire. Mais ce que vous évoquez, c'était un secret de polichinelle, hein, c'était avéré. Enfin, il y avait, ça relevait pas d'une transaction occulte, puisque c'était du secret. C'était fait en connaissance de cause avec l'aval d'Israël pour des raisons diverses et variées, dont certaines que vous venez d'évoquer, affaiblir effectivement l'autorité palestinienne, mais aussi éviter une explosion socio-économique, hein, de l'enclave. Donc c'est un calcul à court terme. Et politique aussi de la part du gouvernement Netanyahou. Non, aujourd'hui ça c'est terminé et donc va se poser de toute façon la question effectivement du positionnement de Doha par rapport au mouvement, puisque il y a eu des rumeurs, notamment en mars 2024, selon lesquelles le Qatar aurait même menacé d'expulser les dirigeants du Hamas s'ils continuaient à faire preuve d'obstruction dans la négociation qu'ils voulaient finaliser. Alors ça a été démenti, mais bon, il y a eu un certain nombre de rumeurs qui montraient que la position du Qatar a été moins confortable qu'en fin d'année dernière.
Donc, on ne sait pas s'il a vraiment formulé le Qatar un préavis au chef certains chefs du bureau politique du Hamas en exil à Doha pour quitter les lieux. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut imaginer des raisons qui pousseraient Doha à les chasser de son territoire? Un assassinat ciblé d'un dirigeant du Hamas chez lui au Qatar, c'est de l'ordre du possible?
Bah, en tout cas, le Qatar, il y avait un accord tacite avec Israël jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'Israël tolérait le maintien d'un bureau justement parce que ça permettait de faire l'interface avec le Qatar, mais le 7 octobre a tout changé, et donc de toute façon, il y a un programme d'élimination qui a été validé par le gouvernement Netanyahou, et oui, le Qatar n'a pas forcément envie de se retrouver dans une situation où il hébergerait quelqu'un qui serait susceptible d'être ciblé par les Israéliens, mais de toute façon, cette question du maintien du bureau a été posée très tôt. Anthony Blinken, lors de sa tournée du 13 octobre 2023, disait que le maintien du bureau, le statu quo avec le Hamas ne pourrait pas perdurer. Et il envoyait ça à l'ensemble de ses interlocuteurs, dont Doha. Doha est obligé de prendre en compte aussi un certain nombre de remarques américaines pour deux raisons, parce que le Qatar a été qualifié d'allié majeur hors OTAN le 31 janvier 2022, donc c'est un statut très particulier, très privilégié, et il a accepté la reconduction de la base d'Al Udeid pour 10 ans, le 2 janvier 2024, ce qui fait effectivement du Qatar un allié très proche des États-Unis, mais évidemment qui a aussi des contraintes à gérer par rapport à son positionnement vis-à-vis du Hamas.
Est-il aussi le Qatar un médiateur avec l'Iran, le Qatar sunnite avec l'Iran chiite, puisqu'on parle de l'Iran toute cette semaine? Est-ce qu'il a tenté, est-ce qu'on sait dans quelle mesure il a tenté d'établir des relations? Ce dialogue doit se faire tous azimuts, c'est-à-dire pas seulement avec le Hamas.
Oui, tout à fait. C'est la complexité de l'Orient. Hein. Disons que le Qatar, effectivement, pays sunnite, entretient des relations avec Téhéran de longue date, hein, pour une raison assez simple, c'est qu'ils exploitent en commun un immense champ de gaz dans le Golfe, la partie Northfield pour le Qatar et South Pars pour l'Iran. Donc, par intérêt bien compris, de toute façon, il y a nécessairement des relations. Et en plus, le Qatar a toujours dit qu'il n'y aurait jamais une opération militaire qui partirait de la base américaine du CENTCOM, donc à Al Udeid. Donc, c'était un message aussi à l'endroit de Téhéran, qui a manifesté sa solidarité quand le Qatar avait été mis au banc du CCG le 5 juin 2017. C'était un des premiers pays qui avait essayé de minimiser les effets du blocus sur le Qatar. Donc, il y a des relations complexes, hein, effectivement, parce qu'il y a des acteurs qui sont à l'interface de plusieurs intérêts parfois contradictoires.
Et donc, puisque vous disiez que les chefs politiques du Hamas allaient peut-être devoir quitter Doha, peut-être que le Qatar leur signifier leur départ imminent, leur obligation de partir, ce serait pour aller où? Est-ce que d'ores et déjà on sait si des discussions sont établies? Il se trouve que Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas, et Khaled Meshal étaient en visite à Istanbul ce week-end. Ils ont rencontré Recep Tayyip Erdogan samedi. Est-ce que la Turquie fait partie des points de chute éventuels de ces dirigeants?
Oui, alors pour l'instant, le Qatar a dit que il y avait un maintien. Il a déclaré hier que la question du déplacement du bureau politique n'était pas posée. Mais effectivement, il y a quand même des rumeurs ces dernières semaines. Là, vous évoquez la possibilité d'un transfert en Turquie, puisqu'on sait que la Turquie du président Erdogan est un soutien du Hamas déclaré. Et puis il y a eu des rumeurs précédentes hein, sur éventuellement un transfert à Alger. Les choses ne sont encore confuses, mais incontestablement la situation sera amenée à être modifiée d'une manière ou d'une autre à moyen terme.
Merci beaucoup David Rigolero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique l'IFAS et chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Jean-Pierre Perrin, on parlait tout à l'heure de l'Iran qui défendait la cause palestinienne, parfois plus par opportunisme qu'autre chose, et vous aviez quelques nuances avec Leïla Sera à ce sujet, mais sur le Qatar, lui, est-ce que le Qatar, il défend la cause palestinienne pour les Palestiniens ou pour une sorte d'ADN islamo-frériste, pour le dire vite, qu'est-ce qu'on peut comprendre ?
Il n'y a jamais une seule raison. Hein. Je voudrais juste atténuer ce que j'ai pu dire sur l'Iran et la cause palestinienne. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs volets. Il y a effectivement l'opportunisme, mais il y a aussi sans doute de la part des dirigeants iraniens un intérêt sincère pour la cause palestinienne. Mais bon, quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre, difficile à déterminer. Pour le Qatar, je crois que c'est important de dire aussi, c'est que le Qatar, avec la diplomatie, cultive son image de marque. Il est très important que cette image de marque ne soit pas écornée par un échec trop flagrant de ces discussions. Donc déjà, il commence à prévenir qu'il y aura peut-être un échec dans les discussions. Ça, c'est aussi pour préserver sa propre image. Alors évidemment, le Qatar est comme vous l'avez dit, au carrefour de sa politique extérieure qu'il veut manifestement visible. Et puis, il y a quand même un intérêt pour tous les pays du Golfe, pour la cause palestinienne, qui est dans les populations, en tout cas, sincère.
Leïla Sera, un tout petit mot, en quelques mots, si vous voulez bien, pour conclure.
Oui, en quelques mots, vous parliez dans le biais de la relation entre le Qatar et l'Iran, mais on n'a pas parlé de la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui me semble fondamentale et qui vient porter préjudice à toute cette vision en fait dichotomique dans la région entre un axe de la résistance et un axe de la normalisation avec Israël, puisque en fait les Saoudiens et les Iraniens sont eux aussi dans des arrangements politiques, dans une réconciliation qui a déjà eu lieu bien avant le 7 octobre et qui est en passe d'être remise en cause tout simplement avec la guerre à Gaza, puisque les Israéliens tentent de bouleverser ces ententes. Aucun pays dans le Golfe ne souhaite l'explosion d'une guerre régionale, mais Israël essaye de remettre en difficulté cette entente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour plusieurs raisons, le dossier nucléaire, essayer de se servir aussi de l'Iran pour dépasser leur impasse dans la région. Donc je pense que c'est quand même important de montrer justement que ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite vient encore une fois remettre en cause ces idées d'opposition doctrinale simpliste dans la région.
Merci beaucoup Leïla Sera, chercheuse associée au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris, le CAREP. Vous avez écrit Le Hamas dans le monde, paru aux éditions du CNRS, une version réactualisée il y a quelque temps, en 2021. Merci beaucoup Jean-Pierre Perrin.
Merci à vous.
Journaliste et écrivain. Les références de vos ouvrages sont sur le site de France Culture à la page de Culture Monde et on peut lire tous vos articles dans Mediapart en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
En Espagne, Catherine, la sécheresse historique en Catalogne entraîne des licenciements temporaires.
L'occasion d'explorer les conséquences du dérèglement climatique sur le marché de l'emploi. En Catalogne donc, quasiment pas de raisins. Les vignes sont si desséchées dans la région du Penedès, qui produit le cava, ce vin mousseux fruité, que les racines de vignes âgées de 30 ans sont mortes, racontent El País et Der Spiegel. Des raisins ratatinés, flétris, dépérissent sous un soleil intense, ajoute l'agence de presse Reuters. C'est un cas de force majeure invoqué donc par Freixenet, leader mondial du vin mousseux, pour licencier dès le mois prochain 80% de ses effectifs. Alors attention, de manière temporaire, 615 employés sont concernés, peut-être jusqu'à la fin de l'année, indique El Periódico de Catalunya. Mais le journal catalan craint désormais une cascade de licenciements chez de petits producteurs de cava et dans toute la chaîne d'approvisionnement. Le manque d'eau pourrait même obliger à l'arrachage des vignes incapables de résister au stress hydrique, alerte El País.
Et ce n'est pas le seul cas d'emploi perdu dans l'agriculture à cause du climat.
Le mois dernier, je vous parlais ici même de ces milliers de saisonnières agricoles en Inde. Mariées de force à l'adolescence, endettées, elles subissent des hystérectomies pour couper de la canne à sucre sans interruption. Le New York Times et The Indian Express expliquaient que leur travail alimente de grandes marques de soda comme Coca, Pepsi ou encore le chocolat Cadbury. Eh bien, ces travailleuses agricoles sont originaires de Bide, dans l'ouest de l'Inde, l'une des régions les plus touchées par la sécheresse, souligne le quotidien britannique The Independent. Depuis 2010, cette sécheresse dévaste l'agriculture locale, si bien que de plus en plus d'hommes et de femmes quittent leur foyer pour se rendre dans le district de Kolhapur, à plus de 400 km de chez eux, pour travailler dans l'industrie de la canne à sucre, explique encore The Independent. Autre exemple de cette vulnérabilité économique et climatique qui touche les femmes notamment, au Zimbabwe, le quotidien Newsday raconte comment la sécheresse dans le district de Binga, dans le nord du pays, affecte les communautés qui vivent traditionnellement de la pêche et de l'agriculture. Mauvaise récolte, mort du bétail, le niveau des eaux baisse, plus de poissons à pêcher. La population s'appauvrit encore plus et selon Newsday, la situation est pire pour les femmes et les jeunes filles, certaines prostituées, violées, parfois en échange de paquets de chips, affirme le journal zimbabwéen. Vulnérabilité particulière, on le comprend, du sud global. Alors qu'en Europe, face à la sécheresse qui menace la production de cava, le président du directoire de Freshnet explique au Spiegel que ce n'est pas seulement négatif, car on assiste, dit-il, à une délocalisation de la viticulture, notamment vers l'Angleterre.
Toujours au Royaume-Uni, Catherine, des exilés craignent aujourd'hui d'être expulsés vers le Rwanda.
Après l'adoption hier d'une loi au Parlement britannique qui prévoit pour les personnes entrées illégalement par la Manche notamment, d'examiner leur demande d'asile non plus au Royaume-Uni mais au Rwanda. Les premiers avions vers ce pays d'Afrique de l'Est décolleront fin juin, début juillet, assure le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, cité notamment par le Guardian. Et certains exilés ont déjà reçu une lettre annonçant leur départ, comme le raconte Hamzé, un Iranien de 34 ans, dans ce reportage télévisé sur Channel 4. J'ai participé aux manifestations qui se voulaient révolutionnaires après la mort de Mahsa Amini. Avec des amis, on a distribué des tracts pour sensibiliser les gens sur le fait que l'Iran est une dictature. On doit vivre selon leurs règles, dénonce Hamzé sur Channel 4. On ne peut pas vivre comme on l'entend. Et je pense que si les puissances mondiales s'unissaient pour éliminer les dictateurs et rendre le monde plus sûr, alors les gens n'auraient plus de raison de quitter leur pays, personne ne viendrait ici. Channel 4 affirme par ailleurs que 40 000 migrants pourraient être concernés par ces expulsions vers le Rwanda, mais le pays d'Afrique de l'Est n'a que 200 places d'accueil selon la chaîne télévisée britannique. Alors la feuille de route du gouvernement conservateur est semée d'autres embûches sur le plan judiciaire. La Cour suprême britannique a déjà estimé que le Rwanda n'était pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile, rappelle le Télégraphe, et le quotidien conservateur craint que le bras de fer ne vire à la crise institutionnelle pour savoir qui est souverain, qui peut avoir le dernier mot entre le Parlement ou les tribunaux. La Cour européenne des droits de l'homme pourrait aussi contrecarrer les plans de Rishi Sunak avant les élections générales d'ici la fin de l'année, rappelle la BBC. Outre les objections éthiques, juridiques et pratiques, l'Institute for Public Policy Research alerte lui sur le coût exorbitant de cette loi. Alors que le gouvernement britannique dépense en moyenne 55 000 livres sterling sur 2 ans pour héberger les demandeurs d'asile, précise le Financial Times, l'accord conclu avec le Rwanda coûte lui plus d'1,5 milliard de livres sterling aux contribuables britanniques, explique Channel 4, soit près de 582 millions d'euros, ou, pour le dire autrement, près de 2 millions de livres sterling pour chacun des 200 à 300 migrants qui seraient expulsés vers Kigali, estime le Guardian, quotidien de gauche. Cet argent pourrait être mieux utilisé, selon l'opposition travailliste, pour renflouer les services publics britanniques ou encore lutter contre la pauvreté ou le changement climatique à l'échelle mondiale. NBC News aux États-Unis rappelle que ce dérèglement climatique force des dizaines, voire des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à quitter leur foyer.
Merci beaucoup Catherine Dutu.